vient notre univers physique? Tout le cosmos, les planètes, la Terre, la vie qui existe sur notre planète. Comment est-ce que c'est venu à l'existence? Le titre de mon message aujourd'hui, Création ou évolution? Aujourd'hui, on va voir, bibliquement parlant, des preuves que l'univers a été créé par un Dieu tout-puissant, que ça ne peut pas être autrement. Même que la science qui avance, qui fait des progrès de ce côté-là, découvre que l'univers ne peut pas être le fruit du hasard, mais qu'il a dû avoir une intelligence supérieure qui a mis ça en mouvement et qui a amené tout ça à l'existence. C'est important qu'on puisse comprendre que Dieu est le Créateur et qu'on puisse admirer dans sa création sa grande puissance et comment les choses se sont produites pour en venir à l'existence. Ça solidifie la foi. Et j'écoutais hier avec mon épouse, en début de sabbat, un message de M. Meredith qui disait, « Pour augmenter la foi, regardez la création de Dieu. » C'est une façon d'augmenter notre foi, de voir comment ces choses-là sont merveilleuses, de voir comment tout ça fonctionne d'une façon ordonnée et que ça ne peut pas venir d'autre chose que d'une puissance supérieure qui a amené ça à l'existence. Il y a trois points de vue, ou trois visions différentes, si vous voulez, concernant l'origine de l'univers. Premièrement, certains pensent, et nous sommes de ceux-là, et non seulement on le pense, mais on le croit et on le sait, c'est que l'univers, c'est l'œuvre d'un Créateur tout-puissant. Deuxième opinion, deuxième option, c'est l'évolution pure, c'est-à-dire que il n'y a pas de Créateur, selon certains. Mais que tout a commencé par un Big Bang, une explosion initiale, et que tout s'est fait comme tout seul. Que la vie a commencé par des organismes minuscules, unicellulaires, mais on ne dit pas d'où ces organismes-là seraient venus, par contre, parce qu'il faut qu'il y ait un commencement eux aussi. Mais on dit qu'au début, selon ceux qui prônent l'évolution, qu'il y avait de minuscules organismes unicellulaires qui se seraient développés au cours des millénaires ou des longues périodes de temps, qui se seraient transformés au hasard pour former la vie complexe que nous connaissons. Juste là, ça ne peut pas. Il ne peut pas y avoir une vie complexe comme celle qui existe qui se soit développée par hasard. Et vous allez voir les exemples que je vais vous donner à ce sujet-là. La troisième hypothèse que certains émettent, c'est que l'univers a été créé par Dieu, mais d'une façon mixte. C'est-à-dire que Dieu aurait créé l'univers, mais qu'il aurait en même temps utilisé un processus d'évolution en même temps pour faire évoluer certaines espèces. Donc, un mélange des deux. Mais vous savez ce que c'est un mélange des deux, un mélange de vérité et un mélange d'erreur? C'est une erreur. C'est que ça ne peut pas tenir la route, absolument pas. C'est ce que Satan a fait avec Adam et Ève. Dieu nous révèle comment l'univers physique est apparu et comment la vie est apparue, d'où ça vient. Jean 1, l'Évangile de Jean. Jean 1, et on va lire le verset 1 à 3. Vous savez que c'est le verset biblique qui remonte le plus loin dans le temps, où c'est possible à des êtres humains de remonter par conception. Alors, Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. » La parole et Dieu n'ont pas eu de commencement. Mais pour un commencement, pour nous, si vous voulez, plus loin qu'on peut penser, on a mis dans ces termes-là, Dieu a inspiré l'apôtre Jean de mettre ça dans ces termes-là. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc, on voit ici que de toute éternité dans le passé, il a existé deux êtres divins qui n'avaient jamais eu de début, qui sont des êtres éternels. Ces deux-là existaient. Et ils ont fait un plan, ils ont planifié de procéder à une création. Et c'est la parole de Dieu ou le porte-parole de Dieu, le deuxième être divin de ces deux êtres-là qui existaient de toute éternité, qui a eu comme mandat de procéder à la création de l'univers physique que nous connaissons. Mais au moment où l'univers physique a été créé, permettez-moi de préciser tout de suite que l'être humain n'existait pas encore. L'être humain n'existait pas encore à ce moment-là, comme on va voir. Allez à Genèse 1, verset 1. Ici, on a la description, justement, du moment où Dieu a créé l'univers physique, c'est-à-dire le porte-parole, celui qui est devenu plus tard dans le temps le Christ, qui est devenu fils de Dieu par la suite, le premier-né dans la famille spirituelle de Dieu. Alors, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est tout simple, hein? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, il parle ici du commencement de l'existence de l'univers physique. Il dit, c'est Dieu qui a fait ça. Et on sait par Jean 1, verset 1 et 2, que c'est le Christ qui a procédé à cette création-là. Mentionnons tout de suite qu'il s'agit là de la première création. Parce qu'il y en aura d'autres. Vous allez voir, et c'est biblique. Ça, c'est la première création. Et à ce moment-là, les anges avaient déjà été créés. Parce qu'avant la création de l'univers physique, Dieu avait créé des êtres spirituels qu'on appelle des anges. Et ces anges-là ont assisté à la venue en existence du cosmos, de l'univers physique et de la planète Terre. Mais les êtres humains n'existaient pas encore. On le voit ça dans le livre de Job. Vous pourrez aller voir, je ne m'y reporterai pas pour le temps, mais dans Job 38, vous pourrez lire à partir du verset 4, aller jusqu'au verset 67. Ici, Dieu parle à Job, puis il se révèle à lui. Et Dieu dit que c'est lui qui a fait toute chose. Et là, il est en train de montrer une grande leçon à Job, mais regardez ce qu'il lui dit. Et dans la phrase que Dieu utilise, on voit que les anges existaient déjà. Dieu dit à Job, et je cite, « Où étais-tu, Job, quand j'ai fondé la terre? Alors que les étoiles du matin, les anges, éclataient en chants d'allégresse et que les fils de Dieu, les anges sont appelés parfois des fils de Dieu aussi, poussaient des cris de joie. » Alors, ce qu'on voit par ça, c'est qu'au moment où le Christ a amené, selon le plan qu'il avait établi avec Dieu le Père, en existence l'univers physique, les anges qui existaient déjà, on trouvait ça formidable et merveilleux et ils éclataient en chants d'allégresse. Ils étaient tout heureux de voir la beauté de ce qui sortait des mains de Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, a créé une flore et une faune sur la planète. Parce qu'il a donné, j'entrerai pas là-dedans, mais vous le savez par les textes, il a donné à Lucifer, qui est devenu après Satan, et à ses anges, un tiers des anges qui avaient été créés, d'habiter la terre et de dominer sur la terre. Et c'est l'époque où les dinosaures ont été placés sur la terre. Ces animaux qui ne sont pas de notre création, mais qui sont d'une création précédente. Les dinosaures, les reptiles volants, les autres animaux qui ne sont pas de notre création, et des végétaux extraordinaires. Et tous ces animaux-là ont disparu de la surface de la terre lorsque Lucifer, devenu Satan, l'adversaire de Dieu, et ses démons ont voulu renverser le trône de Dieu et qu'il y a eu cette grande guerre qui a détruit la surface de la terre et ce qui existe dans l'univers physique comme état de beauté. C'est devenu tohu et bohu, c'est-à-dire c'est devenu informe et vide. Il n'y avait plus aucune vie à la surface de la terre et la surface de la terre était sans forme, il n'y avait aucune vie qui était là. Donc, tous ces animaux-là avaient disparu. Ils ont été enterrés, soit dans le sol ou soit dans les eaux qui couvraient la terre à ce moment-là, lors de cette grande rébellion-là. Vous pourrez aller voir pour ça dans Ésaïe, chapitre 14, verset 13 et 14, où Satan dit, « Je monterai aux cieux, je m'assoirai sur le trône de Dieu et je deviendrai comme Dieu. » Dans le fond, il voulait devenir Dieu, il voulait remplacer Dieu. Ça, c'est la grande guerre dont je vous ai parlé et qui a donné suite à un désastre épouvantable où toute la beauté initiale qui avait été créée dans l'univers physique a été détruite. Mais l'univers physique a continué à exister. Alors, le verset 1 de la Bible nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et vous arrivez ensuite de ça au verset 2 où c'est marqué « La terre était informe et vide ». La terre était informe et vide. Et on sait que dans le texte original, ce n'est pas le mot « était », mais c'est le mot « devint ». Elle a été changée de son état initial de beauté absolue pour devenir informe et vide. Donc, au verset 2, on voit la terre est devenue informe et vide. C'était pas comme ça au point de départ. C'est arrivé lorsque les anges se sont rébellés contre Dieu et qu'il y a eu cette grande guerre avec les anges fidèles, restés fidèles à Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, quand ça a été détruit? C'est que la terre a été recouverte d'eau, comme on le voit encore au verset 2. La terre devint informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est devenu comme une immense boue et de l'eau un peu partout à la surface. Tout était mélangé, si vous voulez. Et ça, ça a duré dans cet état-là, durant des millions ou des milliards d'années, sans qu'il ne se passe rien. Puis, le Créateur, qui n'a pas été surpris par ça, il y avait un plan dans sa création, le Créateur a procédé à une recréation de la surface de la terre. Parce qu'il y avait dans l'esprit un but bien précis, de créer l'être humain pour le placer sur la terre. Ça, c'était son plan depuis le tout début. Alors, Dieu a procédé à la recréation de la terre. Il a renouvelé la face de la terre, comme vous voyez dans Genèse 1. Et donc, ça, c'est une recréation. La création originale, il l'a fait quand il n'y avait rien qui existait, que les anges étaient là, et quand il a créé, que les anges étaient émerveillés devant cette beauté-là, après que ça a été détruit, des millions ou des milliards d'années après, Dieu a renouvelé la face de la terre, ça a été la deuxième création. Et comme on sait, il y en aura une troisième. Il y en aura une troisième, vous pourrez aller voir dans 2 Pierre 3, versets 12 et 13. 2 Pierre 3, versets 12 et 13. Je pense que ça vaut la peine que je vous le lise, parce que ça précise les choses correctement ici. 2 Pierre, chapitre 3, versets 12 et 13. « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, le jour du retour de Christ, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, et c'est clair dans la Bible, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Après qu'il y aura eu ces dernières grandes guerres finales, Dieu va refaçonner la face de la terre et dit qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et là, il y aura une justice divine qui va être présente partout parmi les êtres qui vont vivre encore à ce moment-là. Genèse 1, on revient à ça, parce que quand Dieu a procédé à la deuxième création ou à la recréation, après que tout a été rendu informe et vide par la rébellion des anges, on voit à partir du verset 3 de Genèse 1, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et au sixième jour, on sait que Dieu a créé Adam et Ève. Vous pourrez voir dans les textes, à la toute fin de ça, Dieu a créé nos premiers parents, Adam et Ève. Et on sait le choix qu'ils ont fait. Ils ont plutôt suivi Satan plutôt que de suivre Dieu. Et ils en ont payé le prix. Nous en payons encore le prix aujourd'hui, jusqu'à temps que le Christ revienne et que le voile soit levé sur la connaissance de tous les êtres humains pour qu'ils sachent qui est le vrai Dieu, quel est son plan, quelles sont ses lois, qu'ils reçoivent son esprit, qu'ils soient transformés et qu'ils vivent enfin heureux. Mais revenons au moment où Dieu a créé, recréé, si vous voulez, en six jours, tout ce qu'il y avait à la surface de la terre, tout ce qu'il a placé là. Parce qu'après la faute d'Adam, environ plus ou moins 1650 ans après la recréation, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les êtres humains, comme je l'ai mentionné, qui se sont détournés de Dieu, s'étaient rendus tellement loin que Dieu est intervenu par le déluge, par amour pour eux, pour ne pas qu'ils aillent tellement loin qu'ils ne puissent plus se convertir lorsqu'il les ramènerait à la vie. Dieu a fait en sorte qu'ils meurent tous par le déluge, en les gardant en réserve pour le moment de la résurrection. Et Dieu a épargné à ce moment-là ses trois fils et leurs épouses, de même qu'un couple de tous les animaux de la terre sur l'arche. Tout le reste a été détruit. Les animaux, les poissons, les animaux dans l'arche, pardon, ont vécu, et les poissons ont vécu parce qu'ils étaient dans l'eau, bien sûr, donc ils n'avaient pas besoin d'être dans l'arche, si vous voulez. Genèse 7. Genèse, chapitre 7, versets 19 et 20. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent à 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Maintenant, regardez le verset 23. Ça veut dire qu'il y a eu des grandes vagues, des marées immenses qui ont laissé sur les montagnes le dépôt de corps, de fonds marins, de mollusques, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve même sur des montagnes des mollusques marins, parce que dans tout ce grand bouleversement-là du déluge qu'il y a eu, ça a été transporté un peu partout sur la face de la Terre, et certains se sont déposés sur le haut des montagnes. Aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi c'est rendu là, mais par la Bible, on le comprend, par le déluge qui a amené ces choses-là, et qui a même amené des choses de la première création, parce que ces eaux-là ont sûrement travaillé avec une force extraordinaire. Et il y a eu des ossements ou des fossiles de la première création sous les anges, dinosaures et autres, qui ont été déplacés aussi à ce moment-là. C'est pour ça que c'est tellement difficile pour les ceux qui étudient ça sans connaître la Bible, de comprendre l'histoire. Mais quand on connaît la Bible, on peut faire le lien entre ces choses-là. Verset 23. « Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. » Alors, dans le fond, le déluge qui est arrivé là, on pourrait quasiment dire c'est le deuxième déluge. Parce que lors de la révolte des anges, quand tout a été détruit, que la terre est devenue tohu et bohu, informe et vide, les eaux couvraient la terre à ce moment-là. Ça a été comme une espèce de déluge, si vous voulez. Alors, celui-ci est comme un deuxième déluge par rapport aux eaux qui ont couvert la planète suite à la rébellion de Satan et de ses anges. On a un ministre de l'Église, il y a plusieurs années, M. Torrance, qui a écrit un article intéressant qui s'appelle « Deux créations, deux déluges », et qui va dans le sens de ce que je vous mentionne maintenant. Et je vous cite un petit passage de son article. « Le déluge de Noé a provoqué la formation d'une série de couches sédimentaires de fossiles, entièrement différentes de celles qui avaient été laissées par la description décrite au deuxième verset du premier chapitre de la Genèse. » C'est ce que je vous dis. Quand le deuxième déluge est arrivé, au moment de Noé, tout ce qui a été détruit a été amené un peu partout là-dedans, et ça a même amené des choses de la première création, et ça s'est mêlé aussi. Ça a été des bouleversements majeurs. Et l'ordre des sédiments ou des fossiles ont même été, dans certains cas, inversés. C'est pour ça qu'on retrouve, en surface à certains endroits, des fossiles qui datent de la première création, du monde des dinosaures, et parfois des choses qui datent de la création faite ensuite. L'histoire biblique, le récit des événements, comme on regarde aujourd'hui, et c'est intéressant de le voir dans ce sens-là, parce que ça nous sécurise, ça nous montre la puissance de Dieu, et il nous le dit dans sa parole ce qui est arrivé. Et ça nous fait comprendre, en même temps, et ça, ça m'a toujours intéressé, m'a toujours fasciné, ça nous fait comprendre la géologie de la Terre, l'histoire géologique de la Terre. Maintenant, j'en viens à l'autre hypothèse que certains font, que Dieu aurait procédé à moitié par une création et à moitié par une évolution, qu'il aurait utilisé les deux pour arriver à ce que nous avons. Et ça ne peut pas être vrai non plus. Ça veut dire que Dieu aurait créé sur une très longue période de temps, par évolution. Par exemple, qu'il y aurait eu 1000 ans entre chaque journée décrite dans Genèse 1 et 2. Il a travaillé durant 6 jours. Et les gens disent, bien, vu que c'est écrit que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour et un jour pour 1000 ans, il y a eu 1000 ans entre chaque jour de la création. Et à travers ça, là, Dieu s'est servi de l'évolution. Il a créé, il a donné l'existence aux choses, mais il s'est servi en plus de l'évolution pour faire avancer les choses. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas être réel. Ou encore que Dieu a modifié des choses par évolution en cours de route. Dieu déclare absolument le contraire. Genèse 1, regardez le verset 24 et 25. Genèse 1, verset 24 et 25. Dieu nous répond très clairement. Et on va voir tantôt que même scientifiquement, on peut le prouver. Genèse 1, verset 24 et 25. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Voyez-vous, il y avait des caractéristiques très précises, très spéciales, selon chaque espèce d'animaux. Et c'était déterminé depuis le début, depuis le premier jour de la création, depuis le moment où ils ont été créés. Verset 25, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Il prend la peine de répéter à plusieurs occasions que tous les animaux, il les a créés selon leur espèce. Le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Non, il n'y a pas eu d'évolution totale dans ce qui existe et il n'y a pas eu non plus d'évolution partielle à partir d'une création comme à demi réalisée. La Bible puis la nature prouvent que toute la création qui a été faite en 7 jours. Des jours de 24 heures chacun. Et que ça ne peut pas être autrement. Et j'espère que vous seriez capable de répondre à cette question-là si quelqu'un vous le demandait. Sinon, le sermon d'aujourd'hui va vous donner des indications claires et précises pour que vous ayez cette conviction-là. Écoutez, Dieu a créé des plantes. Il a créé des plantes le troisième jour de la création, vous pourrez voir. Ça veut dire les fleurs, les arbres fruitiers et tout ça. Qu'est-ce que ça prend pour que ces fleurs-là se reproduisent, pour que les arbres fruitiers produisent des fruits et ainsi de suite? Il faut qu'il y ait pollinisation. Et qu'est-ce que ça prend pour qu'il y ait pollinisation? Il faut qu'il y ait des insectes pollinisateurs. Et les insectes ont été créés en même temps que les animaux le sixième jour de la création, le jour où l'homme a été créé. Donc, il y a eu juste quelques périodes de 24 heures entre les deux. Voyez-vous que c'est impossible qu'il y ait des périodes de 1000 ans entre ces jours-là, parce que si les plantes avaient été créées comme ça a été le cas le troisième jour, le troisième 1000 ans, ça aurait été juste 3000 ans après, avant qu'il y ait des insectes qui fassent la pollinisation. Impossible. Scientifiquement, impossible. Et selon la réalité, c'est impossible aussi. Alors, quand on met ensemble ces événements-là, ces éléments-là, je veux dire, c'est extraordinaire, parce que c'est solide. On voit que Dieu nous montre ce qu'il en est exactement. D'ailleurs, le mot « jour », juste ça nous donne une preuve aussi que c'était des périodes de 24 heures. Le mot « jour » en hébreu, c'est « yom », Y-O-M. D'où le mot « yom kippour », la fête des expiations. « Yom kippour », jour des expiations. Et vous avez aussi le mot « jour » qui est précédé souvent d'un chiffre dans la Bible, et ça désigne chaque fois une période de 24 heures. Vous irez voir dans Exode 12, verset 15. Exode 12, verset 15, Dieu dit là-dedans, « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. » Pas pendant 7000 ans, c'est les 7 jours des pains sans levain qui durent 7 fois 24 heures. Alors, c'est pendant 7 yom, 7 périodes de 24 heures. On retrouve la même chose dans Lévitique 12, verset 3, où on parle de la circoncision et où on dit « Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. » Le 8e yom, la 8e période de 24 heures de l'existence d'un bébé, il sera circoncis. Alors, c'est pour ça que dans Genèse 1, verset 19 et verset 23, vous voyez dans ce récit de la création la phrase qui revient régulièrement à la fin de chaque jour de création, « Il y eut un soir et il y eut un matin. » Et non pas des milliers de soirs et des milliers de matins. Mettez tout ça ensemble. Vous allez voir la preuve irréfutable qu'un jour de création, c'est 24 heures. Ça ne peut pas être autrement. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'évolution non plus. Ça se tient avec ça. Et si on va plus loin, on sait que le septième jour, le septième yom, Dieu a créé le sabbat. Et il s'est reposé de ses œuvres. Et c'est pour ça qu'il nous dit dans Exode 20, versets 8 et 9, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 yom. Tu travailleras 6 jours, pas 6000 ans avant de vous reposer. Ça, on serait découragé, mais c'est aucunement possible. Dieu dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Vous vous reposerez, vous, vos enfants, vos serviteurs, et ainsi de suite. La nature elle-même, elle crie à la gloire de Dieu, à la gloire du Dieu créateur. Regardez dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. C'est pas pour rien que Dieu a inspiré l'apôtre Paul d'écrire ceci. Romains chapitre 1, verset 20. Ça parle très clairement. du Dieu créateur et du fait que c'est lui qui a créé toute chose et que c'est visible, que nous pouvons en être témoins, que ça ne prend pas un cours universitaire ni de grandes recherches. Bien sûr, on peut examiner plein de choses pour rajouter à ces preuves-là, mais il y a des preuves qui sont sous nos yeux chaque jour autour de nous dans l'univers. Verset 20. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. » Donc, le monde a été créé quand on les considère dans ses ouvrages. Voyez-vous, quand on regarde les beautés de la création, et qu'on réalise, ça prend pas beaucoup, beaucoup de recherche, mais qu'on réalise que ça ne peut pas s'être fait tout seul et que ça ne peut pas se reproduire exactement selon le même modèle de génération en génération, que ce soit les plantes, les animaux ou les êtres humains, sans qu'il y ait un concepteur qui ait mis en place toutes les lois nécessaires à ce que ça se réplique d'année en année et de siècle en siècle, comme ça s'est fait. Alors, la nature témoigne que Dieu a tout créé en 6 jours de 24 heures. Il a recréé l'univers physique complet dans sa forme finale. Dieu ne laisse aucun doute dans l'esprit de ceux qui regardent et qui demandent à Dieu de comprendre et qui veulent faire sa volonté. Et plus on le fait, plus notre foi augmente. Ça, c'est important, c'est intéressant, comme M. Meredith mentionnait dans son sermon. D'ailleurs, c'est intéressant, il y a un ministre de Dieu, ministre de l'Église de Dieu de longue date qui a écrit dans le passé, son nom c'était Kenneth Herman, un article qui avait pour titre « Quelle fut la durée exacte des jours de la création? » Je vous cite juste un petit passage, il dit ceci, « Les gens estiment plus simple d'avaler les histoires les plus invraisemblables que de croire la vérité biblique. » C'est vrai. Les gens estiment plus simple d'avaler les histoires les plus invraisemblables que de croire ce que déclarent les textes bibliques. Laissez-moi vous citer quelque chose ici à ce sujet-là. En même temps, ça donne à rire, mais ça nous montre à quel point, se vantant d'être sages, les hommes sont devenus insensés en se faisant des scénarios pour se faire croire que l'homme est le fruit d'une évolution. Et regardez comment ça va loin et comment les gens supposément sensés et des gens très éduqués disent et affirment des choses plus qu'enfantines. Regardez bien, c'est paru dans la presse canadienne. J'ai gardé l'article, ça remonte déjà à un certain nombre d'années, mais je l'avais gardé parce que c'est une perle. Et quand j'ai préparé le sermon d'aujourd'hui, je l'ai retrouvé. J'ai dit, il faut que je donne ça aux gens pour montrer que ça n'a pas de sens. Ça va loin, la théorie de l'évolution. Et que parmi ceux qui prônent cette théorie-là, certains avancent des idées tellement absurdes. L'homme et la femme de Néandertal pouvaient parler. Je vous apprends quelque chose, ça remonte loin, là. L'homme et la femme de Néandertal, ça remonte loin, là. Alors, c'est le titre de l'article. Et c'est à partir de déclarations et de recherches et d'écrits faits par M. Terence Deacon, professeur à Harvard, l'Université Harvard. L'article dit ceci, « Il faudra oublier désormais l'idée selon laquelle l'homme de Néandertal était une brute épaisse, tout juste capable de bégayer de grossiers mots, si vous voulez, de mots mal dits. » Alors, il faut changer d'idée parce que c'était pas ça, l'homme de Néandertal. Alors, j'imagine qu'il était là, lui, pour voir que c'était pas ça. Mais écoutez, regardez bien, c'est pas terminé. Si l'on en croit ce professeur d'anthropologie américain, ce lointain ancêtre de l'humain pouvait parler. Il pouvait parler, l'homme de Néandertal. Certes, il ne pouvait pas prononcer les sons « i » ou « aï ». Là, j'arrête, parce qu'écoutez, un professeur d'université à Harvard qui écrit ces choses-là, que l'homme de Néandertal, qui remonte à je ne sais pas combien de milliers d'années, ne pouvait pas prononcer le mot « le i » et le « aï », il faut aller chercher ça loin. Ou faut pas chercher du tout. Absolument pas. Son langage devait être quelque chose d'un peu nasal, difficile à saisir. Mais apparemment, il pouvait communiquer par la parole avec ses semblables. Au moins, ça, c'est rassurant. Alors, pour la femme de Néandertal aussi, parce qu'il pouvait communiquer avec son épouse. Terence Deacon, professeur à Harvard, croit même qu'il était capable de narrer des contes à ses enfants, de murmurer des prières, voire de raconter des histoires drôles. Alors, l'homme de Néandertal, selon ce professeur d'université à Harvard était en même temps un humoriste. Alors, c'est vraiment intéressant. Mais on dit à la fin de l'article, ses hypothèses reposent, regardez bien sur quoi il a bâti tout, toute son argumentation. Ses hypothèses reposent sur l'examen de cerveaux humains et de singes. Alors, il a pris des cerveaux humains maintenant et des cerveaux de singes maintenant. Il est allé plus loin que ça parce que ça suffit pas là pour savoir s'il prononçait « i » puis « aï », l'homme de Néandertal. Là. Alors, ce qu'il a fait pour compléter son étude sur la morphologie, il a pris des squelettes d'hommes de Néandertal pour étudier leur morphologie du crâne. Alors, il a trouvé des crânes dans le sol et à partir de là, il a fait des comparaisons, il a extrapolé des données et il est arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait pas dire « i » ni « aï ». Mais qu'il pouvait raconter des histoires et qu'il était un humoriste. Alors, vous voyez, quand je vois ça, ça fait sourire, c'est sûr, parce que c'est absurde. La Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus insensés. Ça va loin. Et ça, c'est pas quelqu'un qui a abusé de l'alcool qui dit ça, là. C'est quelqu'un qui défend la théorie de l'évolution et qui pense avoir trouvé la perle rare, si vous voulez, qui peut avancer des choses comme ça. Absolument pas. C'est frappant de voir comment les choses vont loin. Alors, M. Herman dit donc, les gens estiment plus simple d'avaler les histoires les plus invraisemblables, comme celle que je viens de vous montrer, que de croire ce que déclarent purement et simplement les Écritures. En six jours, l'Éternel fit les cieux et la terre et la mer et tout ce qui y est compris. C'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est pour ça que Paul dit dans Romains 1, regardez autour, regardez la création. Vous avez la signature de Dieu là-bas. L'évolution pure et simple ne peut pas exister. Vous savez, à partir d'une cellule où il y aurait eu transformation sur transformation pour en arriver à former des êtres complexes, de plus en plus complexes, et une variété d'êtres comme celle qui existe dans la nature, tant les animaux que les êtres humains. C'est pas possible. Darwin a inventé une théorie. C'est une théorie. Et c'est encore une théorie parce que ça n'a jamais été prouvé, même que c'est en train d'être prouvé, d'être une fausseté, que ça ne peut pas se prouver. Tout le monde peut inventer une théorie, comme Darwin a fait. Et il y a de plus en plus de découvertes scientifiques modernes qui prouvent que la théorie de l'évolution, elle est fausse, qu'elle ne tient pas la route. Qu'elle ne tient pas la route. On a fait certaines recherches et je trouve ça vraiment intéressant de voir les conclusions qu'on a pu trouver. Parce qu'écoutez, quand on se place dans le contexte où Darwin a écrit sa fameuse théorie de l'évolution, à ce moment-là, Darwin et ses collègues ont examiné, bien sûr, les cellules vivantes, mais ça remonte ça à plus de 150 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour faire leur recherche à ce moment-là? Ils ont utilisé les instruments simples et limités qui étaient disponibles à cette époque. Et ils n'ont vu que ce qu'ils ont pu voir dans les cellules. Ils n'ont pas vu ce que nous découvrons aujourd'hui par la science moderne qui est capable d'aller à l'intérieur des cellules et de voir comment ça fonctionne, même dans l'infiniment petit. Ils ont conclu qu'une cellule n'était, somme toute, qu'une petite quantité de substance protoplasmique entouré d'une membrane. C'était ça, la cellule. Ils sont pas allés plus loin parce qu'ils pouvaient pas voir plus loin. Mais ils ont bâti plein de théories là-dessus. Ça, je vous dis que les merveilleuses découvertes de la science moderne montrent à quel point les organismes vivants sont complexes, beaucoup plus qu'on ne l'avait pensé jusqu'à maintenant. Même chez les organismes qu'on dit unicellulaires, les organismes qui sont composés d'une seule cellule, comme les bactéries, par exemple, composées d'une seule cellule. On trouve là des systèmes complexes qui défient toute explication d'évolution. Ça peut pas avoir évolué. S'ils n'avaient pas été créés exactement dans leur forme finale à ce moment-là, elles n'auraient pas pu exister, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, la structure de ces organismes montre qu'il est impossible qu'elles aient pu évoluer. Il fallait qu'ils soient complets et fonctionnels dès le moment où ils sont apparus. Sans ça, ils n'auraient pas survécu. C'est aussi simple que ça. Je vous donne un exemple en termes de biologie moléculaire. La bactérie E. coli, par exemple. Les bactéries à flagelles, on les appelle E. coli. Ce sont des bactéries intestinales présentes chez tous les mammifères. Vous en avez en vous, j'en ai en moi, dans les intestins. Elles sont si petites qu'il peut y en avoir près de 4 milliards dans une seule cuillerée à soupe de liquide. Alors, c'est infiniment petit et sont très nombreuses. Elles se déplacent en milieu liquide au moyen d'organes locomoteurs. Ils se déplacent, ils bougent. Ils ont des organes qui leur permettent de se déplacer. Et ces organes-là, on les appelle les flagelles, qui sont en fait de tout petits filaments spiralés qui tournent rapidement comme des hélices. Et ça fait que ces petites entités-là peuvent se déplacer très rapidement. Chacun d'eux est propulsé à la base par un moteur rotatif. Dieu est puissant, hein? Quand on regarde ça, la beauté de la création. Il y a des petits moteurs là-dedans, des petits moteurs rotatifs ancrés dans la membrane cellulaire de la bactérie. Ça, M. Darwin n'a pas vu ça. Absolument pas. Il faut noter que ces moteurs minuscules qui font tourner les flagelles pour permettre à la bactérie de se déplacer peuvent s'arrêter en un quart de tour et partir aussi vite sur l'autre bord. C'est quelque chose. Et ça, c'est prouvable. Et j'ai un livre avec moi que vous pourrez consulter si vous voulez qui explique ces choses-là. Ils peuvent s'arrêter à un quart de tour pour partir spontanément sur l'autre côté malgré une vitesse de révolution inouïe. Chaque moteur comporte 40 pièces distinctes. 40 pièces distinctes dans chacun de ces petits moteurs-là, chacune étant absolument essentielle à son fonctionnement et ne pouvant en aucun cas occuper une autre place que la place qu'elle occupe. Si elle occupait une autre place, ça ne pourrait pas fonctionner. Il faut que ce soit exactement au bon endroit. Notez aussi que 25 protéines différentes sont nécessaires à la fabrication de chacun de ces petits moteurs-là. C'est en réalité une merveille d'ingénierie. Et c'est justement de ça que parle ici M. Danton dans son livre « Évolution, une théorie en crise ». Et c'est formidable comment ce scientifique-là a décrit les choses et a expliqué ces choses-là. C'est un scientifique aussi, mais qui est allé au fond des choses de ce côté-là. M. Michael Danton, auteur du livre « Évolution, une théorie en crise », a déclaré à ce sujet « Il est très difficile de concevoir une séquence évolutive, hypothétique, autrement dit une hypothèse d'évolution par rapport à ces petits moteurs-là, de rotor plus simple. Ça ne serait pas possible. S'il était plus simple, ça ne marcherait pas. Il faut que tous les morceaux soient là et il faut que tous les morceaux soient exactement dans le bon ordre tel qu'ils ont été établis au moment de la création. Impossible que cette simple bactérie dont je vous parle soit le fruit du hasard. Je ne sais pas si vous commencez à voir le lien entre tout ça. C'est impossible que ce soit le fruit du hasard. Et il faut 25 protéines différentes pour fabriquer un des moteurs dont nous avons parlé. Maintenant, je vais un peu plus loin, parce que M. Danton l'explique dans son livre, et il y a d'autres recherches qui ont été faites là-dessus. Une protéine, c'est un alignement déterminé de plusieurs acides aminés. Quelques centaines, généralement, pour chaque entité. Dans le cas des protéines de collagène, il y en a 1055. Il faut qu'ils soient alignés, toutes dans le même ordre, dans la même séquence exactement. Sans ça, ça n'existe pas et ça ne peut pas fonctionner. Ces acides aminés sont disposés dans un ordre séquentiel très précis et absolument invariable. Quand on parle de la beauté de la création puis de la précision que Dieu a mis là-dedans, une seule erreur de positionnement et la protéine ne peut pas être formée. C'est fort, hein? La protéine ne peut pas être formée s'il manque un élément ou s'il y a un seul des éléments qui est changé de place. Et ça, c'est simplement un tout petit phénomène qu'on peut décrire, qui nous montre la majesté de Dieu et qui nous prouve qu'il a fallu un Dieu créateur pour mettre ça en place. Parce que les organismes vivants qui nous entourent sont d'une complexité étonnante. Et là, je rejoins l'apôtre Paul, il dit, regardez la création, vous allez voir la majesté de Dieu, sa puissance éternelle, on la voit. On la voit surtout à nous qui sommes rendus au temps de la fin, qui avons la possibilité d'avoir accès à des découvertes scientifiques comme celle-là aussi, qui prouvent la Bible, tout simplement. C'était écrit dans la Bible depuis le commencement, mais maintenant c'est prouvé d'une autre façon. Les évolutionnistes sont en réalité incapables d'expliquer que de simples mutations, des petits changements aléatoires dus au hasard aient pu conduire au développement de structures et de processus aussi complexes que ceux que je vous parle. Plus la connaissance humaine augmente, plus il devient évident que l'univers n'est pas issu d'un coup de chance. C'est pas possible. Absolument pas possible. La Bible est claire là-dessus, sur l'origine de l'univers et de la terre, en termes d'ailleurs compatibles avec ce que la Bible, ce que les sciences, pardon, constatent de plus en plus. Maintenant, je veux citer M. Ogwin. John Ogwin, qui est un évangéliste de Dieu, qui est décédé maintenant, un évangéliste de l'Église du Dieu vivant, qui a écrit à ce sujet-là des choses vraiment intéressantes. J'ai mis ensemble ces données-là pour qu'on voit la grandeur de Dieu, puis qu'on voit la grandeur du Créateur Dieu que nous servons. M. Ogwin a écrit ceci. Si les humains et les animaux ont graduellement évolué à partir d'une minuscule forme de vie unicellulaire, à partir d'une cellule, pendant des millions d'années, alors je recommence la phrase, si c'était vrai que les humains sont issus d'une évolution à partir d'une cellule qui aurait changé au cours de millions ou de milliards d'années, on devrait alors pouvoir trouver des preuves fossiles des êtres intermédiaires. Je reprends mon raisonnement. Si les êtres humains ont commencé avec une cellule qui, au cours de millions ou de milliards d'années, s'est développée et puis est devenue d'autres formes, avant d'atteindre la forme humaine totale qu'on voit maintenant, on devrait être capable de trouver des êtres avec une forme à demi-faite, si vous voulez, au moins dans la Terre, au moins dans les fossiles. Alors, on n'en trouve pas. On n'a jamais pu trouver ça. On n'a jamais pu prouver ça. Par exemple, qu'un grand poisson ait commencé à changer pour devenir un hippopotame, parce que c'est ça la théorie de l'évolution, mais qu'entre le grand poisson et l'hippopotame, il y a eu des êtres intermédiaires qui ressemblaient de plus en plus à un hippopotame, un grand poisson qui a commencé avec des petites pattes, après ça des pattes plus grosses, plus longues, et qui a commencé à sortir des dents pour manger à l'extérieur et ainsi de suite. On devrait être capable de trouver des spécimens d'animaux entre les deux. Alors, on n'en trouve pas. Voyez-vous? Alors, la théorie de l'évolution est basée sur une paille qui est appuyée sur l'eau, qui est appuyée sur rien. Alors, il ne faut pas marcher dessus parce qu'on va nulle part, ou sinon on ne comprend plus rien. Alors, c'est intéressant, M. Ogwin dit, « Si les humains et les animaux ont graduellement évolué à partir d'une minuscule forme de vie unicellulaire pendant des millions d'années, on devrait alors pouvoir trouver des preuves fossiles d'espèces intermédiaires. » Après tout, selon cette théorie ou cette hypothèse, les changements se seraient produits graduellement et la nature aurait gardé seulement les plus forts. Selon la théorie de l'évolution, c'est ça, c'est que seulement les plus forts seraient restés. Mais les autres auraient été quelque part, ils auraient été dans la terre, ils auraient resté des ossements ou des traces de ces êtres-là. Et en réalité, comme c'est juste les plus forts qui auraient survécu selon cette théorie-là, il devrait y avoir eu un nombre beaucoup plus grand d'êtres intermédiaires que l'être final, ce qui n'est pas le cas non plus, parce qu'on n'en trouve pas non plus. On parle bien sûr des mêmes êtres. Alors, le biologiste britannique Michael Denton, celui qui a écrit ce volume-là, est vraiment catégorique. Il dit « Si la recherche des fameux chaînons manquants dans l'évolution des êtres vivants n'a souvent rien donné, c'est que, contrairement à la célèbre théorie de Charles Darwin, ils n'ont jamais existé. » On ne les trouve pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais existé. Aussi simple que ça. Alors, c'est pour ça que M. Danton dit non à la théorie des petits pas et rejette l'idée d'une transformation graduelle de mammifères terrestres en baleines ou en autre chose, ou l'inverse, avec une multitude de modifications nécessaires. Selon cette hypothèse, M. Danton continue en disant, « Si cette hypothèse était correcte, des milliers d'espèces de transition auraient dû exister et laisser quelques traces jusqu'à nos jours. » Or, s'insurge Danton, il n'en est rien. Dans les gisements fossiles, on ne voit apparaître que des baleines parfaitement différenciées dans leur état où ils sont actuellement. Alors, c'est intéressant, parce que, encore là, c'était un homme de science. Et ça rejoint ce qu'on a lu tantôt. Dieu a créé chaque être vivant selon son espèce, dans sa forme définitive. Et dès le début, il était créé comme ça. Monsieur John Ogwin, dans son travail, dans le travail qu'il a fait sur le sujet qu'on traite aujourd'hui, a cité certaines parties d'un article du National Geographic qui, eux, sont pour l'évolution, et il a démontré clairement la faiblesse de cette argumentation, un peu comme je fais aujourd'hui dans le sermon que je vous donne à ce sujet-là. Monsieur Ogwin continue son article en disant « La théorie de l'évolution est comme un film dont 999 images sur 1000 auraient été perdues. Appelons ces images-là manquantes les chaînons manquants, comme on parle dans la théorie de l'évolution. Alors, la théorie de l'évolution est comme un film dont 999 images sur 1000 seraient manquantes. Imaginez-vous, à chaque 1000 images, vous n'en voyez qu'une. Vous ne voyez pas les 999 autres. Et ça va à 999 images plus loin avant que vous en voyez une autre. Alors, M. Ogwin continue en disant, « Si vous regardiez un tel film où il manque 999 images sur 1000, comment pourriez-vous savoir ce qui s'est réellement passé dans le film en question ou dans l'histoire qui est racontée? Ce serait tout simplement impossible. Les soi-disant éléments fossiles sur lesquels s'appuient les évolutionnistes sont surtout composés de chaînons manquants. » Il s'appuie surtout sur des choses qui ne sont pas là, des choses qui n'existent pas, qui ne peuvent pas être prouvées. Écoutez, il faut être aveugle pour croire à la théorie de l'évolution, parce qu'il faut accepter de se baser sur des choses qui ne sont pas prouvables et qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas retrouver dans les éléments qui existent dans la nature autour. C'est aussi simple que ça. Alors que la foi chrétienne n'est pas aveugle. Elle est basée sur ce que Dieu a fait, sur le témoignage qu'il nous donne dans sa création. C'est là. Elle n'est pas aveugle, la foi chrétienne. Et elle est basée sur ce que Dieu a promis de faire dans ses prophéties, dans l'Ancien Testament, des milliers d'années dans le temps, et qui se sont réalisées jusqu'à maintenant exactement, et qui vont se réaliser pour le reste des prophéties dans le temps qui vient. Parce que Dieu est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur. Et je reviens à ça. Pour avoir la foi chrétienne, il ne faut pas être aveugle. Il faut regarder qui est Dieu, il faut être prêt à le suivre, à marcher dans ses voies, et Dieu nous révèle les choses qu'il veut que nous comprenions. Mais pour croire en l'évolution, il faut accepter de ne pas voir la réalité en face. Romains 1, verset 20, je reviens là-dessus, ce que Paul avait dit. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu. » Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et regardons autour, regardons les beautés de la création. Chaque jour, le soleil se lève, tout est réglé avec une exactitude extraordinaire dans l'horlogerie céleste. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ont vu ces choses-là, mais ils n'ont pas accepté de reconnaître que derrière ça, il y a quelqu'un qui a amené tout ça à l'existence. Et ne lui ont point rendu grâce, n'ont pas été reconnaissants envers Dieu. Au contraire, plus le temps avance et plus les humains méprisent Dieu. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils ont créé toutes sortes d'idées, de fausses idées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils n'ont plus été capables de comprendre la réalité et la splendeur de la vérité. Vous savez, la théorie de l'évolution, là, à sa face même, c'est un rejet de Dieu, purement et simplement. On ne peut pas croire à l'évolution et croire à Dieu. C'est un ou l'autre. La théorie de l'évolution, c'est un rejet de Dieu en tant que créateur. Parce qu'on dit, il n'y en a pas de créateur. Ça a venu à l'existence tout seul. Et ça l'a évolué par hasard pour donner un monde aussi complexe et aussi beau que celui dans lequel nous vivons. Et vous savez, le fait de croire à l'évolution ou la théorie de l'évolution comme telle, ça a des implications morales. Et ça a des implications morales énormes. Parce que si nous sommes le résultat du hasard, nous, les êtres humains, ça veut dire une chose. Il n'y a pas de créateur, donc on n'a pas de compte à rendre à personne. Donc, on n'a aucune loi à suivre. Parce qu'il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de législateur. Alors que Dieu est le législateur suprême qui a mis non seulement en action les lois spirituelles qu'il nous a données, les 10 commandements et ses fêtes, mais il a mis en opération toutes les lois de la chimie et de la physique qui sont incluses dans la création physique et qui continuent de marcher exactement comme ça a été voulu depuis le début. Parce que les mêmes causes créent les mêmes effets au niveau de la physique et au niveau de la chimie. Et c'est pour ça que les êtres humains sont capables d'envoyer des vaisseaux dans l'espace et de les ramener. Pourquoi? Parce que les mêmes lois sont opérantes. Ils ne changent pas. Elles ont été mises là depuis le début. Si c'était dû au hasard, ça changerait. Mais ça ne change pas. Comme ce que Dieu a fait. Et si nous sommes le résultat du hasard, donc, on n'a pas de compte à rendre à Dieu et on peut rejeter les lois divines. Et à ce moment-là, on peut faire exactement comme l'apôtre Paul parlait lorsqu'il décrivait ceux qui n'ont pas de Dieu. Mangeons et buvons, car demain nous serons morts. Parce qu'après, il n'y a plus rien. Quand on ne croit pas à Dieu, quand on n'a pas compris la splendeur de son plan, quand on n'a pas réalisé de par sa parole qu'après, il y a une autre vie, que Dieu va donner sa chance à tous les êtres humains qui ont existé depuis le début de l'humanité, de le connaître enfin. On ne connaît pas ça. Et vous savez, si nous sommes le résultat du hasard, il y a une seule loi qui existe. N'oubliez pas, il n'y a plus les lois de Dieu, il n'y a plus rien de ça. Là. Si on est le résultat du hasard, qu'il n'y a pas un Dieu créateur, il y a une seule loi qui existe. Et c'est celle que Darwin a mis en évidence, a prôné, la survie du plus fort. La survie du plus fort. C'est ça qu'il disait. Il y a juste les plus forts qui survivent. Et il y en a qui ont compris cette théorie-là parce qu'elle a été inspirée par le même être qui est devenu Satan, qui s'appelait Lucifer autrefois. Hitler a fait la même chose, la survie du plus fort. C'est ce qu'Hitler prônait. C'est pour ça qu'il a voulu éliminer les Juifs. C'est pour ça qu'il a voulu éliminer les Bohémiens, les faibles, les handicapés, pour faire une race supérieure. Survie des plus forts. Ça ne venait pas de lui. Ça venait de celui qui l'influençait en arrière-scène, de Satan le diable, qui a influencé aussi la théorie de l'évolution, qui a la même seule loi, la survie du plus fort. Et c'est l'histoire de Satan. Parce que ce qu'il veut être, après avoir détruit, s'il était possible, parce que c'est ce qu'il vise, toute la race humaine, c'est de lui demeurer seul et de détruire Dieu et de détruire le règne angélique qui sont fidèles à Dieu. Réussir ce qu'il n'a pas réussi la première fois en montant au trône de Dieu pour détrôner Dieu. La loi du plus fort. Satan se voit comme ça. Il dit, c'est moi qui est le plus intelligent, c'est moi qui est le plus fort, je monterai au-dessus des cieux, je m'asseoirai sur le trône de l'univers. C'est encore ça qu'il a à l'esprit. Et dans le fond, la seule loi à laquelle il obéit, c'est la loi du plus fort, sa loi à lui. C'est ce que ça veut dire. Ça va loin quand on décortique tout ce qu'il y a en arrière de ces pensées-là, de ces façons de raisonner, de ces façons de faire. Non seulement l'évolution ne tient pas debout, mais elle s'oppose carrément à la Bible et elle s'oppose carrément au Dieu puissant de l'univers, celui qu'on a l'immense bonheur de servir et de connaître de plus en plus. M. Ogwin concluait en disant, « Si quelqu'un croit en même temps à l'évolution et à la Bible, il prouve simplement par là qu'il n'a compris ni l'un ni l'autre. » Si quelqu'un croit en même temps à la Bible et à l'évolution, qui sont contraires, la personne démontre par son attitude qu'elle n'a compris ni la Bible, ni vraiment ce qu'est la théorie de l'évolution. Allez dans 2 Pierre, chapitre 3, s'il vous plaît. 2 Pierre, chapitre 3. C'est intéressant parce que Pierre a été inspiré d'entrevoir les faussetés, les mensonges qui seraient véhiculés au temps de la fin, là où nous sommes, concernant les origines de l'univers. C'est pas d'hier, mais c'est aujourd'hui encore plus fort que c'était. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit, 2 Pierre chapitre 3, et on va lire à partir du verset 3, aller jusqu'au verset 5. Sachez avant tout que dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. leurs propres idées, comme on a vu dans Romains 1 tantôt, quand Paul disait ils ont suivi leurs propres idées, ils ont rejeté Dieu, ils n'ont pas voulu voir ce qui était pourtant évident sous leurs yeux dans la création, et ils sont devenus insensés, se pensant sages. Alors Pierre dit un peu la même chose dans ces termes ici. « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. » Selon leurs propres désirs, selon les dieux qu'ils se sont faits, selon les croyances qu'ils se sont bâties, selon toutes les théories qu'ils se sont données et qui ne sont pas prouvées, absolument pas. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Ils veulent ignorer, voyez-vous, ils veulent ignorer. Regardez ce qui est écrit ici. Ils veulent ignorer parce qu'ils ont vu mieux. Ils l'ont vu dans la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, qui lui a créé toutes les choses, comme on a vu tantôt. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, dans une forme de très belle beauté. Il dit, ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau. Oui, parce qu'on a vu que quand Dieu a fait la deuxième création, son esprit se mouvait au-dessus des eaux, et que là, il a rétablit les choses comme elles devaient être, qui a procédé à une recréation avant de donner la vie aux êtres humains, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt et submergé par l'eau. Alors, il parle du déluge ensuite et tout ça. Alors, il donne la suite des choses, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies, c'est-à-dire de ceux qui vivent selon une mode de vie contraire aux lois de Dieu et qui rejettent volontairement leur Créateur. Formidable. Tout ça se tient, vous savez. Tout ça se tient de façon extrêmement puissante. L'existence de la vie et de l'univers dans lequel nous vivons n'est pas le fruit du hasard, n'est pas le fruit d'une évolution totale ou partielle. C'est la réalisation, le résultat d'une création par un Créateur tout-puissant qui révèle à ceux qui l'appellent maintenant et qui veulent vivre selon ses voies, qui leur révèle le sens de l'histoire, ce qui est arrivé dans le passé réellement, qui a fait la création, comment ça s'est fait et qu'est-ce qui s'en vient. Le merveilleux monde à venir que nous annonçons, que nous avons la responsabilité de faire connaître actuellement avant le retour de Christ.